Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse. BFM Business accueille les experts.
Allez, on est reparti les experts. Deuxième partie sur BFM Business avec François Eckel, avec Jean-Charles Simon, avec Xavier Jaravel et puis avec Thomas Asporta. C'était quoi la petite phrase d'Olivia Grégoire ce matin, interrogée sur l'avenir d'Elisabeth Borne?
Oui, il y a quelques minutes, qui disait oui, à ce stade, elle est toujours Première Ministre, on verra dans quelques heures. Bon, il faut relativiser ses propos parce que institutionnellement, de toute façon, Elisabeth Borne doit remettre la démission de son gouvernement puisque hier, trois ministres étaient candidates et ont été battus. Oui. Donc, selon les règles en vigueur, elles vont devoir quitter le gouvernement. On pense notamment à Méline Montchalin, qui est celle qui occupait le poste le plus important. À l'écologie et donc pour les remplacer, Elisabeth Borne doit remettre la démission. Et puis par ailleurs, on sait que des secrétaires d'État sont attendus, c'est la tradition là aussi après le scrutin législatif. Et puis cette ouverture au LR dont on parle, d'une façon ou d'une autre, il va falloir évidemment embarquer cette couleur politique là au sein du nouvel exécutif.
Entre parenthèses, il y a des grands relais d'Emmanuel Macron au Parlement sur les questions budgétaires, fiscales qui ont été Amélie de Montchalin. Il y a Amélie de Montchalin qui était au début le...
Tout à fait, une figure, un pilier budgétaire à l'Assemblée. Ouais.
Laurent Saint-Martin, hier soir, Bénédicte Pérol, c'est révélateur de quoi ça pour vous, Jean-Charles?
C'est clair quand...
philosophie, une façon de...
Quand LREM perd, enfin Renaissance maintenant perd quasiment 150 sièges, comme le disait Thomas,
moitié, hein.
Bon, même si Modem et Horizon sont bien traités, et donc ça fait 245 plus 4 et divers centres, c'est forcément, il y a des figures qui tombent. On savait que ces gens-là avait été élu en 2017 dans une circonstance un peu exceptionnelle où franchement LREM battait tout le monde facilement parce que justement la gauche était divisée, donc elle était peu présente au second tour et il y avait beaucoup plus de duels que gagner facilement LREM. Moi je pense en termes de ressources humaines, c'est vraiment quelque chose d'important.
Oui.
Parce qu'on a quand même là un Parlement...
On perd des poids lourds sur ces questions.
Oui, on perd des poids lourds. Alors, on retrouvera peut-être de nouveaux. Je pense, par exemple, il y a des nouveaux élus parisiens comme Astrid Panosian, Benjamin Haddad, qui sont des personnes sur lesquelles, je crois, la majorité mise beaucoup, donc qui ont réussi hier leur pari, c'est-à-dire de gagner des circonscriptions face à LR, d'ailleurs, dans l'Ouest parisien. Bon, il y en aura d'autres, probablement, qui vont se révéler et qui vont... On devra venir, mais ça, c'est assez intéressant, finalement, sur la question de la qualité du travail parlementaire qu'il va falloir trouver plus que jamais. Plus que jamais, un peu comme encore plus qu'entre 88 et 93 avec la majorité relative de François Mitterrand à l'époque. Oui. Là, il va falloir encore beaucoup plus être quelqu'un très bon dans la négociation individuelle avec des gens comme l'avait été Guy Carcassonne de manière incroyable avec les élus des dom-toms de l'époque, etc. Donc là, il va falloir que par exemple les 10 régionalistes, il va falloir traiter ces personnes-là très bien, sûrement, et aller les voir, les élus soutenus par Carole Delga, qui sont un peu nulle part. Bon, tout ça, il y a tout un tas de choses qu'il faudra faire en termes de tactique, et puis après, en termes de qualité technique, il faudra convaincre des gens qui, effectivement, à droite, par exemple, sont des gens comme, je pense à Charles de Courson, par exemple, des gens comme ça, qui sont des gens rigoureux, et qui ne se...
Et rodés à l'exercice,
qui ne se laisseront pas convaincre s'ils trouvent que c'est pas sérieux ce qu'il aurait proposé ou si c'est pas de qualité.
Xavier.
Oui, peut-être deux remarques. La première, juste pour dire que d'une certaine manière, la dynamique actuelle, elle n'est pas si différente de 2017 au sens où il y a une sorte de rejet de ceux qui sont établis. Donc ce que dans les sciences politiques on appelle parfois le dégagisme. Et du coup, les poids lourds de la majorité ont été en fait confrontés peut-être à des difficultés plus grandes que d'autres qui étaient moins connues. Il y a eu énormément d'abstention et il y a aussi eu moins d'abstention dans les cas où il y avait des gens qui voulaient se mobiliser contre quelqu'un qui s'était établi comme poids lourd de la majorité. L'autre marque, c'est de se dire que, comme le Parlement maintenant est fragmenté, va jouer plus de rôles, on peut... une vision optimiste serait de se dire que ça va être peut-être un moment où le Parlement va se doter de davantage d'outils qui lui permettent de faire preuve d'analyse, de sérieux, notamment d'analyse budgétaire ou autre, Et c'est quelque chose qui avait été tenté un peu, notamment par Amélie de Montchalin, Jean-Noël Barrot et d'autres, début 2017, qui avaient pris en partie. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle le printemps de l'évaluation, mais qui n'a pas totalement pris, avec pas de budget dédié, pas d'équipe dédiée. Et donc une approche optimiste serait de se dire qu'on pourrait se décaler vers un Parlement plus à l'américaine, qui aurait des ressources comme le Parlement américain, si le Parlement veut se doter de ses propres ressources en la matière.
Va y avoir un autre sujet, François Eckel, c'est que le Rassemblement National revendique ce matin, alors ça c'est un sujet qui commence à monter depuis hier soir, la présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée. Alors il y a un sujet, parce qu'on est vraiment sur un poste hautement stratégique. Vous pouvez nous expliquer ça, François ?
Alors hautement stratégique, il ne faut peut-être pas exagérer. La Commission des Finances a beaucoup de pouvoir et elle en aura encore plus dans un Parlement divisé ou avec des majorités à trouver. Donc c'est clair que la Commission des Finances a un rôle.
Mais sur ses pouvoirs, justement, redites-nous un petit peu.
Elle examine tous les textes financiers. Elle fait le travail, un peu comme toutes les commissions parlementaires, elle fait le travail préalable, normalement, avant la discussion en assemblée plénière. Mais de toute façon, tout peut être remis en cause en assemblée plénière par le Parlement. Oui. Et voilà, il y a ce travail préparatoire sur la base de rapports très élaborés. Et puis, en dehors des textes financiers, elle procède à des auditions, elle publie des rapports sur des tas de sujets ayant plus ou moins de rapports avec l'économie ou avec les finances. Donc, elle a un rôle d'information. Donc, c'est très important. Mais bon, elle exerce ses compétences collégialement. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de la commission des finances qui vote à la majorité. Alors après, comme dans tout organisme collégial, le président, évidemment, a un peu plus de pouvoir. En particulier, il a le pouvoir d'organiser les débats. Donc c'est toujours un rôle très important. Mais un pouvoir qui est contrebalancé par celui du rapporteur général. C'est-à-dire que le président, il préside, mais les débats sont organisés à partir d'un rapport présenté par un rapporteur. Et le plus souvent, c'est le rapporteur général, notamment pour ce qui est des questions budgétaires. Bon.
C'est le poste que t'occupais, Laurent Saint-Martin.
C'est le poste de Laurent Saint-Martin. Et donc, le poste de rapporteur général, normalement, il appartient à la majorité.
Oui.
Voilà.
Donc, les clés dans l'opérationnel.
Voilà. Alors ensuite, le président donc, a un rôle très important. Ce que dit depuis une réforme qui date de Sarkozy, c'est Didier Migaud qui avait été le premier président de la commission d'opposition. Ce que dit le règlement de l'Assemblée, je n'ai pas vérifié, mais il me semble, c'est qu'il faut que ce président soit nommé au sein d'un parti d'opposition.
Voilà.
Qui se réclame d'opposition. Ce n'est pas forcément le principal parti d'opposition. Donc ça laisse ouvert à beaucoup de discussions et ça doit être voté par la commission elle-même. Elle élit son président. Je crois que ces dernières années, les députés de la majorité s'abstenaient. Oui. Ce n'est pas une obligation non plus, à ma connaissance. Non. Donc il y a beaucoup de choses. C'est assez ouvert.
On a compris que c'est des partis qui pourraient faire hurler aussi si le RN qui revendique n'obtenait pas la présidence de la commission.
C'était effectivement une pratique que les députés du groupe majoritaire s'abstiennent pour que les députés du premier groupe d'opposition et une forme de majorité relative. Donc c'était comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, ça peut tout à fait fonctionner différemment. Il peut y avoir un accord, typiquement, pour que LR, qui occupait cette présidence avec Éric Woerth, qui maintenant est passé dans le groupe majoritaire, pour que LR garde, par exemple, cette présidence de commission. Moi, je pense que ça, ça ferait hurler, évidemment, le RN, mais faire hurler le RN, ça peut être aussi un gain politique. Donc,
Dans la circonstance. Thomas, oui.
Oui, juste pour ajouter, au-delà de ses prérogatives, c'est quand même aussi une vitrine, une exposition très forte pour le président. C'est quand même lui qui, très régulièrement, se retrouve premier interlocuteur du ministre de l'économie, du ministre des finances, à l'occasion des auditions, à l'occasion des examens des textes. C'est une manière de se confronter mano à mano avec les locataires de Bercy. Donc ça a ce rôle-là politique assez, assez fort en termes de visibilité.
Jean-Charles.
Juste pour dire quand même, au quotidien, le rapporteur général est quand même l'homme clé, me semble-t-il, opérationnel de la commission.
Bien sûr, c'est exactement ça.
L'opérationnel. C'est honorifique. D'ailleurs, on le voyait dans le tandem, le rôle qu'a pu jouer Didier Migaud, le rôle qu'a pu jouer Éric Woerth. Ce sont des rôles très importants, effectivement, et qui peuvent jouer. On essaie de prendre quelqu'un qui est considéré comme très qualifié en matière économique et financière, ce qui peut d'ailleurs suffire à disqualifier le groupe Rassemblement National, où il ne m'a pas paru que les représentants brillaient par leurs compétences en quelque matière que ce soit. Mais en revanche, le rapporteur général restera quand même la cheville ouvrière des textes budgétaires.
Bon, pour conclure sur cette... On va essayer de parler un petit peu du gaz russe, un petit peu aussi, et puis de l'IS, l'impôt sur minimum européen. Mais pour conclure là-dessus, certains disent que c'est un deuxième quinquennat déjà convulsif et certains le disent encore plus depuis hier soir. Est-ce que vous voyez, du fait de cette majorité relative, l'élan réformateur d'Emmanuel Macron brisé? Retraite, réforme de l'État au sens large, finalement, pour conclure.
Sur les retraites, il y a une majorité au Parlement pour une réforme, pour un recul de l'âge de départ à la retraite.
Il y a une CFDT qui se braque aussi en même temps, on le voit, ça aussi.
Il y a une majorité au Parlement. Donc, démocratiquement, cette réforme peut être votée. Après, le problème, c'est l'opposition sociale, c'est le fait que les syndicats de salariés s'y opposent, y compris la CFDT.
Mais la CFDT qui se braque aujourd'hui.
Et donc, en effet, socialement, ça va être compliqué.
Xavier,
Oui, tout à fait. La réalité, c'est aussi que la campagne, on le répète depuis plusieurs mois, il y a eu peu de grandes mesures qui ont été portées dans le débat, donc ça rend la situation actuelle en fait encore plus difficile, puisque il y avait un débat qui n'était pas très clair, maintenant il y a une majorité qui n'est pas très claire, mais ça donne du coup beaucoup plus de responsabilités au Parlement. Dans la campagne de la majorité, vous vous rappelez, il y avait plusieurs appels à la concertation, il y a eu, le président a annoncé la création d'un Conseil national de la refondation, donc ces institutions-là, d'une certaine manière, elles vont peut-être plus avoir de rôle à jouer, puisque la concertation en fait doit se jouer au Parlement. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est que le Parlement se saisisse de ces outils, se dote de nouveaux outils pour faire de l'évaluation des politiques publiques de manière, du coup, objective, pour favoriser un consensus. Mais il me semble qu'effectivement, les programmes vont être... c'est difficile de s'appuyer sur les programmes qui n'étaient pas très clairs pour les prochaines semaines, qui vont surtout être une réponse à l'urgence. Donc, il semble que le risque, c'est qu'on réponde beaucoup aux crises qui sont encore nombreuses et qu'on passe moins de temps sur les sujets de long terme, même s'il y a des sujets comme l'éducation, par exemple, où il y a en fait globalement un consensus, en tout cas sur le diagnostic du problème, sur le fait qu'il faut changer les choses. Après, c'est la question du comment on change les choses, mais c'est ces sujets de long terme-là, l'environnement, et donc c'est ça le risque principal. C'est est-ce qu'on va pouvoir avoir un consensus pour faire avancer les choses sur ces points-là.
L'élan réformateur, après un premier quinquennat déjà légèrement contrarié, on va dire ça comme ça finalement, qu'est-ce qui va...
Le premier quinquennat, il a quand même... il était bien sûr très contrarié, la crise des Gilets jaunes et la crise Covid, mais... au global, il y avait une feuille de route en 2017 et une partie de la feuille de route a été effectuée.
Oui.
Le principal sujet qui a été laissé en cours de route, c'est quand même les retraites. Il n'y avait plus de soutien. Je pense que même s'il n'y avait pas eu le Covid, je ne suis pas sûr que le processus serait allé au bout de temps. Il y avait d'opposition. Et là, il faut quand même rappeler qu'avant même ce résultat des élections législatives et alors même qu'il y avait encore un espoir de majorité absolue pour Ensemble, le gouvernement reculait par rapport à sa première intention d'aller à 65 ans. C'est-à-dire qu'on commençait à dire on va faire quelque chose de provisoire qui va aller que jusqu'à 2027 sur le rythme de monter vers 65 ans en 2032. Il y a ce qu'a dit tout à l'heure Xavier Jarvel, qui est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent on n'est pas dans une situation, pour une fois, où il y a une équation financière dramatique en matière de retraite. Parce que le déficit, il vient en partie de la réduction progressive de l'effort de l'État. Mais quand on regarde le poids des retraites dans le PIB, on est à peu près déjà probablement passé au pic. Donc on est sur quelque chose qui semble moins urgent, moins évident, et à partir du moment où il y a une tension sociale très forte, alors peut-être que les LR, au contraire, justement, vont en faire un marqueur en disant il faut absolument faire cette réforme-là, et donc vont négocier leur accord avec le gouvernement sur le fait de tenir cette ligne de repousser l'âge de départ à la retraite. Mais moi, je trouve que finalement, l'élément réformateur dont vous parliez, il était, ce qu'on disait, c'est très très peu prononcé finalement dans cette campagne. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons de l'échec relatif de LREM d'ensemble, c'est qu'on ne voyait pas trop, il n'y avait pas trop eu de campagne, il n'y avait pas vraiment de mesures. On n'a pas vu la Première ministre quasiment pendant 6 semaines. C'était extrêmement flou. Donc, est-ce qu'il y en avait un élan réformateur? Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il était plus dans l'idée de voir un peu au cas par cas. Il y a des projets comme le nucléaire qui sont clairs, mais là aussi, il y a une majorité avec les Républicains pour poursuivre dans le sens des annonces de la fin du quinquennat précédent. Est-ce qu'il y a besoin de faire énormément de choses? Moi, je ne suis pas sûr.
Je suis très content
s'il n'y a pas grand-chose qui se fait.
On va entendre les LR sur les retraites, sur le sérieux budgétaire. LR qui vont nous mettre en avant qu'on approche des 3 000 milliards d'euros de dette publique, François Eckel. C'est oui. là-dessus qu'on va les entendre aussi.
Ah bah, bien sûr, non, mais ça va être à la dictée. C'est pour ça que je dis que le principal sujet dans les mois qui vont venir, c'est les lois de finances. D'abord la loi de finances rectificative et ensuite la grande loi de finances pour 2023. Parce que c'est là-dessus, en effet, qu'on va voir si LR joue le jeu. S'ils acceptent, en effet, de faire des compromis, parce qu'il y aura des dépenses supplémentaires. Hein, sur la loi sur le pouvoir d'achat, il y a beaucoup de dépenses bien qui sûr. Sont prévues. Donc il va falloir qu'ils acceptent ou qu'ils se mouillent en disant, parce qu'ils sont bien gentils, mais quand ils expliquent, enfin, on a dit, on va supprimer 200 000 postes, etc., à ce moment-là, il faut les mettre devant une loi de finances avec des budgets ministère par ministère, oui. en disant, avec des emplois, des plafonds d'emplois ministère par ministère, ils disent, voilà, là, vous supprimez et vous assumez.
Oui. Ça va être ça la grande
discussion. Pas sûr qu'ils le fassent.
Ça sera le défi, en tout cas. Thomas, pour conclure.
Oui, pour conclure, on va dire sur ce que disait Jean-Charles, la question de l'élan réformateur. Je pense qu'il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui se posent la question sur le maintien ou pas de la politique de l'offre. Enfin, dans quelle mesure on va continuer dans ce sens-là.
Sur les impôts de fraude, en tout cas, on leur a donné des assurances. Après, Emmanuel Macron a donné des assurances aux patronats.
Mais les cartes sont complètement rebattues, là, pour le coup, avec ces législatives. Déjà, c'était la seule mesure symbolique du maintien de la politique de l'offre. La seule mesure à destination des entreprises dans le programme de la majorité, c'était effectivement une nouvelle baisse des impôts de production, avec l'annonce de la suppression de la CVAE, 7 milliards d'euros. Sauf que qu'est-ce qui se passe, là, avec le résultat d'hier? Les LR, eux, dans le programme de Valérie Pécresse, c'était pas supprimer la CVAE, c'était supprimer la C3S. C'était moitié moins, c'était 3 milliards et demi. La grosse différence entre les deux impôts, c'est que la C3S, c'est un impôt perçu par l'État.
Oui.
Donc si l'État veut faire rayer ça d'un trait de plume, ça le regarde. La CVAE, c'est pas du tout la même chose, c'est un impôt perçu par les collectivités, par les métropoles, les intercos, les communes. Là, il y a des élus LR. Eux, ils veulent pas du tout s'asseoir, ils ont déjà envoyé des communiqués avant même le second tour pour dire nous, on veut pas s'asseoir sur ces réformes. On s'est déjà fait avoir une fois avec la baisse des 10 milliards, où ça a été, entre guillemets, pour notre pomme. Enfin, c'est l'État qui a été indemnisé, mais on leur a tordu le bras sur la méthode de compensation. Et là, c'est la même histoire qui est en train, enfin, que le gouvernement voulait reproduire. Là, pour le coup, je pense que les LR peuvent avoir leur mot à dire et dire non, on va peut-être baisser les impôts de production, mais à la manière qu'on va vous dire.
Il est inquiet, le patron Jean-Charles Simon, à ce sujet ou pas?
Le gouvernement commençait aussi à reculer sur cette mesure CVAE. Je ne sais pas si vous avez vu ces dernières semaines. Il y avait d'ailleurs des inquiétudes côté patronat en disant mais attendez, est-ce qu'on est plus sûr que ça se fasse vraiment dès 2023? Et on commençait à dire.
Inquiétude sur le calendrier.
Voilà,
mais si ça se trouve, c'est peut-être même plus à cet impôt-là qu'il va
peut-être bouger. Que ça passera. Ouais. Mais vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que les élus locaux vont avoir. Enfin, le monde des élus locaux, sans oublier le Sénat, dont on n'a pas dit un mot depuis le début, mais qui va retrouver un poids évidemment encore plus fort dans le contexte actuel. Bah, évidemment, ce qu'aiment pas les élus locaux, je pense que ça va pas. Ils vont être en position beaucoup plus de force qu'avant ces législatives. Mais non, pas particulièrement qui. Je pense que quand même, si on prend un peu de recul, là on est sous le choc, si je puis dire, de cette perte de majorité absolue et donc on en fait le fait majeur. Si on prend un peu de recul, il n'y a pas de majorité de changement radical qui était le programme du PS. Donc c'est ça qui était l'alternative. Là, on a quelque chose, une configuration où effectivement, peut y avoir surtout des blocages. Est-ce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour le monde d'entreprise, on a déjà eu des gestes assez qui ont été considérés comme significatifs. Et donc, je suis pas sûr que ça crée énormément d'inquiétude. À partir du moment où on a l'impression qu'il n'y a pas... Effectivement, s'il y avait blocage complet des services de l'État, par exemple, là, il y aurait une angoisse collective. Mais s'il n'y a pas ça, je ne suis pas sûr que le fait qu'il y ait peu de choses soit vu comme très anxiogène.
Vous ne faites pas dire qu'Emmanuel Macron, qui a vu les patrons mardi dernier... En leur disant, on ne change rien sur les impôts de prod, peut-être devait-il avoir une vague idée, peut-être, de ce que pourrait être le résultat de ces législatives. Donc, je pense qu'il n'a pas dit ça en se disant, j'aurai la majorité absolue quand même.
Mais il les a assurés de sa volonté politique.
Oui.
Il les a assurés qu'effectivement, cette politique-là allait être maintenue, mais maintenant, sous quelle forme? Je pense quand même que ça rebat un petit peu les cartes. Enfin, en tout cas, qu'on se pose davantage de questions qu'il y a quelques heures.
On verra bien. Xavier voulait dire un mot.
Déjà, effectivement, comme vous disiez Jean-Charles, on se posait la question, est-ce que ça va être fait en une fois, en deux fois?
Oui.
C'était quand même si là, et le président n'avait pas été clair et définitif là-dessus. Hein, libre de la mer.
Si c'est C3S, si c'est C3S versus CVAE, il y a des tas d'entreprises qui sont contentes. Hein.
Oui, évidemment. Xavier.
Oui. Effectivement, juste pour rebondir sur la politique de l'offre, il y a la question des impôts de production, mais il y a aussi l'action des investissements de plus long terme pour transformer le tissu productif.
Oui.
Il y avait dans le programme de majorité, il y avait 10 milliards par an annoncés sur la transition énergétique, écologique. Ouais. Et il y avait aussi 10 milliards annoncés sur tous les enjeux liés à l'éducation, l'apprentissage, le recrutement. On sait qu'un des grands problèmes des entreprises aujourd'hui, c'est les difficultés de recrutement.
Oui.
Et donc, sur ces deux volets-là, effectivement, on se pose la question de savoir s'il pourra y avoir des accords pour pour porter ces projets-là, pour garder ce cadre budgétaire-ci qui était quand même très ambitieux, et notamment sur la partie écologie, avec l'enjeu des énergies renouvelables, les éoliennes, qui était plutôt un marqueur à droite où il y avait un rejet de cette approche-là. Donc c'est d'autres questions qui se posent, mais je pense que pour la politique de l'offre, en fait, en France, c'est vraiment ces enjeux-là maintenant qui comptent. C'est l'enjeu de long terme, comment on transforme le tissu productif, remonte la performance éducative et prépare la transition carbone.
Bien, voilà pour ce second tour des législatives. Il nous reste aller 5, 6, 7 minutes, messieurs. Bah, dire un petit mot quand même de ce qui se passe du côté de la Russie qui, plus les jours passent, fait monter la pression sur les Européens en coupant le robinet du gaz. Il n'y a plus de gaz russe qui arrive en France depuis la fin de semaine dernière. Est-ce qu'il faut se reposer des questions ? Parce que vous dites tout ça est salutaire finalement. Moi, ça a le mérite de clarifier les choses. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Xavier ?
Peut-être, oui, très rapidement sur ce point, il y a des analyses de Philippe Martin, qui est le président du Conseil d'analyse économique, qui fait juste remarquer que jusqu'ici, d'une certaine manière, on a, avec les annonces d'embargo, on a fait augmenter les prix sur les marchés. Et donc, du coup, globalement, on a transféré davantage de ressources à la Russie. Et en annonçant des embargos plus forts à plus long terme, début 2022, par exemple, on laisse le champ libre pour un redéploiement des flux. Et donc, une approche qui n'a pas été utilisée jusqu'ici, qui est proposée dans ces travaux de Philippe Martin, c'est l'idée d'avoir un cartel d'achat. Donc, ce serait l'Union européenne qui décide d'acheter en tant que cartel gaz, pétrole, pour essayer de maintenir les prix à un niveau qui ne soit pas trop haut.
Parce que les prix se sont envolés depuis l'annonce des Russes.
Oui. Tout à fait.
On a appris que Gazprom coupait le robinet petit à petit, finalement. Quoi.
Exactement. Et donc, du coup, c'est une autre approche qui permettrait de limiter un peu les flux financiers dont bénéficie la Russie.
Jean-Charles Simon, comment est-ce que vous regardez ça ?
Les cas sont assez différents, effectivement, au sein de l'Union européenne. C'est des pays qui sont très sensibles au gaz russe, d'autres moins. La France l'est pas tant que ça.
17-20% du gaz qu'on apporte qui vient de Russie.
Avec les autres fournisseurs, il y a probablement la possibilité de faire. Mais en effet, la bonne tactique pour l'UE, là, aujourd'hui, sur ce sujet-là, c'est d'aller voir les Norvégiens, les Qataris, les Algériens, etc., et d'être en position d'acheteur et le GNL nord-américain pour être effectivement dans la meilleure position, parce que finalement cette structure, il faudrait l'imaginer, hein, être un peu monopsone sur le gaz, ce serait évidemment très très pertinent. Par ailleurs, on voit il y a aussi des réponses sur les autres énergies. C'est ce qu'a annoncé l'Allemagne, ce qui est assez évidemment paradoxal d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire que du coup les centrales charbon allemandes vont fonctionner davantage pour faire face à de moindres fournitures de gaz. Donc il y a la demande gaz globale de l'UE devrait aussi un peu baisser en utilisant au maximum les autres ressources, comme d'ailleurs ils l'envisageaient pour l'embargo 2023 sur le pétrole. C'est trouver entre les autres fournisseurs et en réduisant un peu la demande globale de l'Union européenne des façons de répondre à ça. En effet, là, la chose était paradoxale, puisque en termes de recettes pour la Russie n'avait jamais eu autant de recettes d'hydrocarbures qu'au premier trimestre 2022, ce qui est quand même assez évidemment effrayant.
C'est très malin de la part de Poutine qui réduit, ferme le robinet, ça fait monter les prix, donc il s'y retrouve.
Pour se réarmer, c'est un petit peu contre-productif.
Notion de sobriété qui va s'imposer de plus en plus, François Eckel.
Moi, ce sujet, je pense que quand on décrète un embargo sur les exportations de la Russie en hydrocarbures ou en matières premières, je ne sais pas qui perd le plus, en fait, à court terme. D'où ce petit jeu entre nous et les Russes. D'où ce petit jeu où les Européens disent si vous continuez les hostilités, on va aggraver renforcer nos embargos sur vos exportations de matières premières. Et les Russes qui répondent chiche, c'est moi qui le fais, c'est vous qui allez le payer. Donc, mais je pense que ce qui est beaucoup plus efficace en fait, c'est des embargos sur nos exportations vers la Russie. C'est-à-dire empêcher les Russes, en fait, d'utiliser l'argent qu'ils obtiennent grâce à leurs exportations. Oui, je pense que c'est beaucoup plus efficace, soit en gelant leurs avoirs un peu partout dans le monde, soit en décrétant, en leur empêchant d'acheter des produits industriels et des technologies occidentales, parce que sur le long terme, c'est ça qui va les affaiblir, à condition qu'on maintienne ces embargos sur nos exportations de produits industriels, qu'on les maintienne longtemps, après un éventuel arrêt des hostilités, pour affaiblir durablement la Russie.
Sur le long terme, c'est-à-dire que ce sont des sanctions qui ne payent pas...
Ça ne paiera que sur le long terme. Juste sur ce point, dans l'aéronautique, c'est ce qu'on a fait, c'est aussi ce qu'ont fait les États-Unis. Et en fait, semble-t-il, ça peut payer, entre guillemets, même à assez court terme. C'est-à-dire qu'il y aura des gros problèmes dès l'été sur les avions de ligne en Russie. Et donc, ça, c'est des choses très concrètes. Et donc, d'une certaine manière, ça pose cette question plus large de savoir si des économies qui sont davantage imbriquées, finalement, sont... Est-ce que pour nous, par exemple, on aurait mieux résisté à cette guerre en Ukraine si on avait été plus indépendant de la Russie? D'une certaine manière, on est beaucoup plus exposé naturellement sur l'énergie, mais on a aussi des moyens de pression inverses. Et donc, globalement, c'est finalement assez... Quand on prend en compte cet autre aspect que mentionnait François Eckhall, on a aussi eu un effet assez tangible et qui va être encore plus fort d'ici un ou deux mois.
C'est sûr qu'il faut quand même les cibler sur des secteurs sur lesquels vous citez l'aéronautique qui est un très bon exemple, sur lesquels il n'y a pas trop d'alternatives côté pays en développement, parce que on voit bien que sinon il y a une substitution de fournisseurs,
Chine
et autres pays en développement, qui deviennent du coup les fournisseurs de la Russie, qui renforcent leurs liens en évinçant les pays européens et nord-américains. Donc faut trouver, mais on a en effet des armes. On a des armes.
Thomas.
Oui, la facture du gaz qui explose, la Commission a proposé très officiellement, très formellement, des achats de gaz en commun avec l'accord de 27. Ça, c'est censé normalement entrer en vigueur sur la même méthode que les achats de vaccins en commun. Sauf que la grande différence, parce que ces achats de gaz en commun, ils ne voient pas le jour. Ils ont été proposés il y a quelques semaines, mais en effet, ça avance ou c'est balbutiant. Oui. Sur les vaccins, ça a marché parce qu'on avait tous les mêmes besoins. Mais là, la situation elle est très différente. On n'est pas tous dépendants de la même manière vis-à-vis du gaz russe. Effectivement, il y a des pays qui sont dépendants jusqu'à 100% quasiment, d'autres beaucoup moins comme nous. Et donc, dans les faits, on n'arrive pas à concrétiser ces achats de gaz en commun au niveau européen. Ça, j'imagine que Vladimir Poutine, il avait en tête depuis un certain temps.
C'est le problème des sanctions. Enfin, on l'a dit, effectivement, ça agira, mais sur le très, très, très long terme, finalement. Voilà. C'est ça l'idée.
Il y a quand même, avec les mesures notamment prises sur les avoirs financiers, sur la circulation dans l'espace aérien, je pense quand même que les effets, la guerre est dramatique en termes de victimes et de dégâts, mais on n'est quand même que 4 mois après le début de la guerre. Donc je pense que la Russie va... subir des conséquences lourdes de la situation dans laquelle elle s'est mise. Donc je suis convaincu qu'il y aura des problèmes dans la vie des Russes et des entreprises russes très bientôt.
Et ben voilà, la Russie qui continue petit à petit de faire monter la pression sur les Européens. Merci beaucoup messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était les experts. François Eckhall, fondateur de FIPECO.fr, professeur d'économie à Paris 1. Jean-Charles Simon, président de Station. Et Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics. Et puis Thomas Asportas pour BFM Business. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce matin.